Radio France Internationale, il est 10h du matin à Paris et à Berlin, 9h en temps universel.
Jeanne Bartoli.
Dans ce journal, l'Allemagne sous tension à la veille des élections législatives anticipées. Les conservateurs sont largement en tête des sondages, mais l'AfD, formation d'extrême droite, devrait opérer une percée après une campagne dominée par les questions d'immigration. À la une également, Emmanuel Macron qui a inauguré ce matin le salon de l'agriculture à Paris. Le président français dit continuer de chercher une minorité de blocage dans l'Union européenne pour bloquer l'accord commercial avec le Mercosur. On parlera aussi des critiques de Donald Trump qui a traité cette semaine Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Les propos font réagir, y compris dans le camp conservateur américain. Et puis on reviendra sur la condamnation hier matin de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale ivoirienne de taekwondo, Tadjou Attada, condamné pour harcèlement moral à 6 mois de prison ferme. L'Allemagne, à la veille des élections législatives qui devraient aboutir à la nette victoire de la CDU, les conservateurs emmenés par Friedrich Merz caracolent en tête des sondages, loin devant l'AfD, la formation d'extrême droite, donnée en deuxième position, et les sociaux-démocrates du chancelier allemand sortant, Olaf Scholz, donné seulement en troisième place, les chrétiens-démocrates de la CDU, qui sont donc les grands favoris. Illustration hier soir à l'avant-dernier meeting de campagne dans la Ruhr, où l'ambiance était à l'optimisme, Pascal Thibault.
Kanzler, Kanzler, chancelier, panneau à la main, les jeunesses chrétiennes démocrates s'époumonnent et saluent déjà le successeur d'Olaf Scholz. Avec des intentions de vote deux fois plus importantes que celles des sociaux-démocrates, Friedrich Merz, président de la CDU, est assuré de sa victoire demain soir. Les troupes sont donc enthousiastes ce soir à Oberhausen, mais beaucoup savent aussi que la victoire attendue n'est qu'une première mi-temps. Les chrétiens-démocrates veulent obtenir une avance la plus large possible pour s'imposer ensuite face aux partenaires de coalition qui leur sera nécessaire. Rainer Burst, un militant de CDU.
À la fin de l'ère Merkel, avec plusieurs gouvernements avec le SPD, on voulait tourner la page. Il faut que cette fois, nous ayons un rôle de leader et imposions mieux nos thèmes que sous l'ancienne chancelière.
Friedrich Merz est accueilli avec ferveur par ses troupes, mais il sait aussi qu'il s'apprête à prendre les rênes du pouvoir dans une situation très difficile pour son pays.
Ce sera peut-être la législature la plus décisive depuis des décennies. Nous sommes face à des questions qui ne nous seraient jamais dans le passé venues à l'esprit.
Avec une extrême droite à 20%, Friedrich Merz est réaliste. Sans succès dans les 4 ans qui viennent, son futur gouvernement pourrait être balayé par une vague populiste en 2029. Pascal Thibault, Oberhausen, RFI.
Les élections législatives en Allemagne que vous suivez également sur RFI.fr. Série de reportages de notre correspondant avant demain soir une édition spéciale pour suivre les résultats de cette élection. Résultats qui seront forcément scrutés par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle une nouvelle fois les Européens à faire plus pour garantir la paix en Ukraine. Alors que Donald Trump, lui, ne s'est pas privé ces derniers jours de dénigrer le président ukrainien en le qualifiant notamment de dictateur sans élection et en l'accusant publiquement d'avoir commencé la guerre contre la Russie. Ses propos ont surpris et choqué un peu partout dans le monde, mais aussi aux États-Unis et même dans les milieux conservateurs, Guillaume Nodin.
Ça, c'est un dictateur sur une photo de Vladimir Poutine. C'est la une du New York Post, un tabloïd new-yorkais qui a soutenu Donald Trump. Le journal n'appartient pas à n'importe qui. C'est la propriété de Rupert Murdoch, mania des médias, conservateur, et qui était encore il y a quelques jours dans le bureau ovale aux côtés du président américain. Le Wall Street Journal, son quotidien du milieu des affaires, explique la même chose dans un édito et l'ensemble des journaux du groupe, notamment en Europe, sont sur la même ligne. Les propos de Donald Trump ont tellement choqué que même son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a évité de dire comme son patron que Volodymyr Zelensky est un dictateur qui a lancé la guerre, même s'il lui a publiquement demandé de baisser d'un ton. C'est surtout l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, qui mesure ses paroles dans une publication sur les réseaux sociaux. Il qualifie Volodymyr Zelensky de chef courageux d'une nation en guerre et il parle de sa talentueuse équipe de sécurité nationale, un autre ton dont on peut se demander s'il illustre un changement de posture ou simplement une volonté de surprendre et de déstabiliser dans une négociation dont Donald Trump se veut le maître. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ils sont arrivés ce matin en Israël. Deux otages libérés par le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, comme prévu par la première phase de l'accord de trêve. Les deux hommes avaient été capturés séparément il y a une dizaine d'années. Israël qui attend maintenant la libération de quatre autres otages dans la matinée. Des otages enlevés, eux, par le Hamas le 7 octobre 2023. Il s'est exprimé en direct tout à l'heure du Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a inauguré la 61e édition du Salon. Le président français, qui a notamment affirmé que l'agriculture française était dans une transition de ses modes de production, dans une transition climatique et des usages, une transition géopolitique. La France continue de chercher une minorité de blocage dans l'Union européenne pour l'accord avec le Mercosur, a par ailleurs fait savoir Emmanuel Macron. Déclaration alors que cette édition est marquée par les menaces de Donald Trump d'imposition de taxes douanières qui pourraient toucher l'agriculture européenne. À ce sujet, écoutez Alexis Robtin, agriculteur dans la Sarthe, vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs.
S'il y a des droits de douane au niveau des États-Unis plus importants, bah, toutes les exportations de vin, de spiritueux, de fromage qu'on peut faire sur les États-Unis, ça va impacter énormément de filières vis-à-vis du président de la République. Voilà ce qu'on attend de lui. C'est vraiment un plan de défense de l'agriculture. C'est d'essayer de sortir en fait les produits agricoles de ces droits de douane, de garder cette spécificité, qu'ils ne soient pas impactés par les droits de douane ou alors qu'ils soient réciproquement appliqués sur les produits qu'on peut importer, soit des États-Unis ou des accords de libre-échange. On en a longuement parlé dans les mois qui ont précédé. Voilà, c'est de pouvoir préserver l'agriculture des échanges commerciaux tels qu'on les a aujourd'hui.
Alexis Robtin, joint par Nicolas Fellmann. Une résolution rédigée par la France, elle a été adoptée hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. La résolution condamne directement le soutien de Kigali aux rebelles du M23 qui poursuivent leur avancée dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est le troisième meurtre perpétré en Corse depuis le début de l'année. Samedi dernier, une étudiante de 19 ans, Chloé, a été tuée par balle alors qu'elle circulait seule dans son véhicule. La jeune fille aurait été prise pour cible par erreur sur fond de règlement de compte lié à la criminalité organisée. Suite à ce crime de plus, qui s'ajoute à une série d'assassinats depuis des années, des collectifs anti-mafia appellent à manifester cet après-midi devant la place de la gare à Ajaccio, à Rambeng.
Le but de la manifestation, à l'appel du collectif Non à la mafia, oui à la vie et du collectif Massimo Soussimi et d'alerter les autorités sur le climat mafieux qui règne en Corse. Attente et mot d'ordre des associations anti-mafia avec Jean-Toussaint Plassenzotti, porte-parole des deux collectifs.
C'est assassin, virgule, mafieux, virgule, dehors. Voilà. Tout le monde se reconnaît, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend d'abord de la part de l'État qu'elle fasse le nécessaire pour mettre hors d'état de nuire les assassins, leurs complices, leurs soutiens, leurs prête-noms. Et de l'autre côté, la collectivité de Corse, en tant qu'élue, ont aussi un pouvoir de contrôle des marchés publics qu'elle ne fait que très imparfaitement. Donc les deux instances ont des responsabilités et on attend d'elles qu'elles assument leur pouvoir et leur responsabilité.
Les collectifs anti-mafia espèrent un sursaut de la société face aux crimes organisés et réclament des mesures concrètes aux autorités pour lutter contre la mafia corse.
Rambeng, enfin, l'ancien entraîneur ivoirien de l'équipe nationale de taekwondo, Tadju Attada, condamné hier matin. Il était accusé de harcèlement sexuel par Mariama Sissé, mais les faits ont été requalifiés en harcèlement moral. Précision Yoann Gourlet.
À la sortie de la salle d'audience, Mariama Sissé a enlacé sa famille et ses amis venus la soutenir. Un peu plus d'un an après sa plainte pour harcèlement sexuel, la taekwondoïste était soulagée de voir son ancien entraîneur enfin condamné.
Par la grâce de Dieu, on a pu avoir la victoire. Parce que c'est pas moi seule qui ai eu cette victoire-là. Toutes ces filles qui n'ont pas pu parler aujourd'hui, elles aussi, je pense que ça va leur faire plaisir d'entendre ça.
Mariama Sissé espère maintenant servir de modèle pour toutes celles qui sont victimes de harcèlement et de violence. C'est aussi une victoire pour son avocate, Maître Francine Kaangui, qui assure que ce dénouement est une première dans le monde du sport ivoirien.
En général, ce genre de dossier n'arrive pas jusqu'au jugement. Vous voyez, on a toujours des règlements à l'amiable, des pressions familiales, du monde même du sport, etc., qui font que souvent les victimes laissent tomber avant la fin de la procédure. Mariama a ouvert la boîte de Pandore parce que, à la faveur de ce procès, j'ai été contactée par des athlètes d'autres fédérations qui veulent me voir pour voir comment dénoncer justement des faits de harcèlement dont elles ont été victimes.
Par ailleurs, la plainte de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour atteinte à sa réputation a été jugée irrecevable. De son côté, Maître Panfolier Koulibaly, l'avocat de Tadjo Atada, n'a pas encore annoncé si son client allait faire appel. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Abidjan, 9h10, 10h10 à Paris.